L'invité de la rédaction.
Franz-Olivier Gisbert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce dernier été, ce roman que vous signez aux éditions Gallimard. Alors, quand une Marseillaise interroge un Marseillais et que la scène se passe au Cercle des Nageurs, chacun sait très exactement de quoi il s'agit, parce que le Cercle des Nageurs, ça peut constituer en soi un huis clos absolument magnifique.
Ah oui, pour moi, c'est un des plus beaux endroits du monde. Alors, beau, c'est évidemment comme c'est extrêmement mastoc, tout ça, c'est en béton armé, ça se casse un certain nombre. Je ne dis pas que ça se casse la gueule, mais enfin bon, voilà, on voit que ça a été fait il y a très longtemps. Mais c'est un lieu assez magique. Alors, il y a évidemment la bourgeoisie aisée de Marseille, mais il y a aussi les familles des sportifs, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que c'est un centre sportif. C'est là d'ailleurs que vient Florent Manoudiou, Camille Lacour, enfin toute une série de grands sportifs qui en auraient des sports en fait, puis alors c'est devenu aussi une équipe très forte en water-polo. Non, mais j'aime beaucoup le Cercle des Nageurs, et j'aime beaucoup Marseille en général, et c'est vrai que ce livre est on peut dire qu'il y a une ambiance crépusculaire avec, le réchauffement climatique, la bêtise ambiante, le politiquement correct, la bien-pensance atroce, les interdits dans tous les coins, l'interdiction du rire notamment. Et en même temps, malgré tout ça, il me semble que le Cercle des Nageurs reste un peu une sorte de petit paradis. Enfin, vous voyez, c'est une sorte de dernier refuge. Et puis Marseille, c'est vrai, il y a en toile de fond Marseille, qui est une ville que j'adore.
Alors, dans ce roman qui va nous faire bouger dans le temps, puisque nous sommes 10 ans après le jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ce jour d'après 10 ans, nous sommes sous Covid-30, alors un Covid-30 qui est un peu plus gentil que le Covid-19, mais avec 5 ans...
Attention, on a été aidé par la Corée du Sud, parce que bon, ce livre est un livre, évidemment, c'est une satire, c'est drôle, j'espère que c'est un livre que j'ai écrit quand même pour faire rire. Et dans l'histoire, le Covid-30 en fait est combattu surtout grâce à la Corée du Sud,
qui avec une mission humanitaire de la Corée du Sud en France.
Les ONG, etc. D'ailleurs, je pense que si la Corée du Sud avait fait une mission humanitaire en France avec ses ONG, je pense que d'ailleurs on s'en serait sorti beaucoup plus vite. Bon, là, ils arrivent tout de suite et effectivement, il y a assez peu de morts. Enfin, c'est un petit Covid par rapport à celui que nous venons de connaître.
Alors 50 degrés, le réchauffement climatique, vous vous êtes souvent intéressé et inquiété évidemment du climat et de ce que nous sommes en train de vivre. Alors on va évidemment le détailler ensemble, mais c'est vrai que cette pesanteur, on est en fait écrasé par beaucoup de choses. On est écrasé par la chaleur, on est écrasé par les interdictions, on est écrasé par plein de choses et on est un peu apathique, on subit un peu cet écrasement sans vraiment réagir, sans vraiment combattre.
Et vous avez raison, c'est-à-dire on s'habitue, vous savez, d'ailleurs je pense qu'on a tous réalisé au moment du confinement, c'est-à-dire que les 15 premiers jours, 3 premières semaines, on est à la fois entre la révolte et puis surtout une sorte de dépression un peu forte. Et puis au bout de quelques temps, on s'habitue. Et c'est tout juste d'ailleurs si on n'est pas un peu inquiet quand il faut sortir. Ça, c'est l'histoire du complexe, de ce qu'on appelle le complexe de Stockholm, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire, l'humain s'habitue à tout. Et c'est vrai que le sens de ce livre, plutôt, c'est de tirer les sonnettes d'alarme de tous les côtés, de ne pas hésiter, notamment d'ailleurs à propos des Juifs en France aussi. On aborde absolument tous les sujets, absolument sans tabou, sans moi. Et pourquoi ? Parce que j'ai utilisé le rire comme instrument de ma colère. J'ai une colère sur l'époque. Je pense que, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire cette espèce de mollesse d'oisiveté, cette espèce de mollesse oisive qui est la grande caractéristique de notre époque, en tout cas dans une partie de l'Occident, le déclin de cette partie qui est en déclin, d'ailleurs l'Occident normalement est en déclin, mais il y a des parties qui sont plus en déclin que d'autres, et j'ai une espèce je vois très bien ce que vous disiez, qu'on pouvait d'ailleurs retrouver autrefois dans les textes de Tocqueville, mais là, je sens qu'on y est absolument en plein, et au lieu d'être révolté simplement, c'est vrai que j'ai utilisé l'arme du rire pour me moquer de l'époque, et puis en soulignant évidemment tous les travers, en racontant une histoire, parce que moi je suis un raconteur d'histoire, je ne peux pas m'empêcher, donc il y a des personnages, il y a l'histoire d'amour, il y a tout ce que vous voulez, même il y a des rebondissements, mais parce que je crois à la valeur du roman, et je pense que le roman, si on sort du principe même du roman qui est une histoire, une histoire avec des personnages, je pense qu'on se trompe. Non, ça va être, une fois qu'on fait ça, c'est vrai que le roman est un genre supérieur. À mes yeux, comme le disait très bien l'écrivain Michel Déon, il y a quelque chose d'extraordinaire, enfin supérieur, dans le sens, je ne suis pas en train de dire que c'est plus important que le théâtre. Je pense que pour nous, écrivains, c'est génial parce qu'on peut tout faire. Vous voyez, dans un roman, on peut mettre de la poésie, on peut mettre de la documentation, on peut mettre du journalisme, vous avez absolument tous les droits, et puis vous mettre de la prose, bien entendu, vous avez absolument tous les droits. Mais pour que ça tienne, évidemment, il faut des ressorts forts, il faut une histoire avec des rebondissements et des personnages.
Alors, on va parler évidemment des personnages et de l'histoire, mais on va aussi parler de la France que vous êtes en train de décrire dans ce livre. Une France avec un président qui est élu à vie, avec un islam qui écrase toutes les autres religions. Le président, d'ailleurs, termine ses interventions avec un Wallah Akbar retentissant. Et puis, chacun en prend, comme souvent avec vous, hein, d'ailleurs, et vous le premier aussi, ce qui est à remarquer, chacun en prend pour son grade. Mais particulièrement, oui. Edoui Plenel, c'est assez jouissif, je dois le dire, et François Bunel.
Bah, si vous voulez, je m'en prends en passant aux icônes du conformisme. Alors, c'est vrai que moi, je m'en mets tellement plein la gueule que je pense qu'ils ne devraient pas protester, mais comme ils n'ont pas beaucoup de sens de l'humour, je pense qu'ils vont. Mais je m'en prends en conformisme. Alors, le personnage, d'ailleurs, Antoine Bradsock, qui est un peu moi, enfin, même si je suis quand même aussi un peu l'héroïne.
C'est un personnage récurrent, d'ailleurs, François-Olivier, c'est-à-dire qu'on l'a déjà retrouvé dans vos précédents, dans votre précédent livre.
Il m'a beaucoup servi, et Antoine Bradsock, notamment dans Un très grand amour, et puis il y a souvent des Bradsock qui reviennent dans mes livres, dans Comme une arracheuse dedans, c'est un ancêtre, une ancêtre lointaine d'Antoine Bradsock, et ça se passe au 19e et au 18e siècle. Et là, ce personnage, en fait, il est assez comique parce que moi, avant de taper sur les autres, je pense qu'il était important de bien m'abîmer. Je pense que j'en fais même peut-être un peu trop parce que je pense.
Il est particulièrement lâche. On peut pas dire que vous soyez d'une très grande lâcheté. On peut vous reprocher pas mal de choses, mais pas d'être lâche. Hein.
Voilà, on dit plutôt qu'il était responsable. Depuis que je suis à l'école, des sales gosses, voilà. Insolent, enfin voilà, j'ai toujours entendu ça, donc il n'est pas, je ne suis pas lâche. Bon, j'en ai rajouté un peu dans la lâcheté, je trouvais ça amusant, j'ai chargé le tableau. Alors après, évidemment, c'est plus facile de dire, là, vous citiez deux noms, mais qui incarnent bien l'époque, c'est-à-dire, Edoui Plenel, c'est l'incarnation de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme, de la haine de soi, avec en même temps un côté tartuffe, bien entendu, qui est très drôle, parce que on dit une chose et puis on fait le contraire, c'est facile, voilà, et puis quant à François Bunel, vous savez, vous décidez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis surtout pas d'histoire, et donc on reste dans un petit confort conformiste, c'est un peu ça. Et évidemment, la culture là-dedans n'a strictement aucune importance. Et donc, je me moque, et simplement, je me moque d'eux, comme je me moque de moi, et c'est pas un livre contre eux, bien entendu, mais ils sont des incarnations de notre époque. Alors, il y en a un, François Bunel, qui préside une sorte de commission qui va décider de tous les écrivains qu'il faut écarter, ne plus lire, donc il faut supprimer les livres. Et il y en a une flopée. Et puis d'autre part, Edoui Plenel, lui, c'est une sorte de grande conscience. C'est assez comique parce que bon, quand on connaît le personnage, mais c'est une sorte de voilà, il a été élevé au niveau de grande conscience. Il est président, ça va être son rêve, un président d'une espèce de haut comité de déontologie journalistique, je ne sais quoi. Voilà. Et bon. C'est une satire, je le répète. Donc, la satire, on est toujours au niveau du roman. Et donc, on peut s'éloigner de la réalité. Mais je pense que le roman, moi, j'ai souvent pensé ça à travers mes romans. On dit des choses, et parfois, on dit peut-être plus des choses. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais dans ma vie. Mais j'ai l'impression, parfois, de pouvoir dire plus de choses à travers un roman. C'est étrange, hein, comme d'avoir un roman comme Dernier été. Mais aussi, par exemple, des choses comme des livres comme La cuisinière d'une mère, ou le Schmock qui était sorti l'année dernière, j'ai l'impression de pouvoir dire toujours plus de choses. Le roman, pour ça, quand je dis genre supérieur, tout à l'heure, je parlais de genre supérieur, enfin, ne vous prenez pas, hein, je ne dis pas que c'est la poésie, j'adore la poésie. Ouais. Pendant le confinement, mon mari est Lucien Marseille, j'étais en train de lire à haute voix des poèmes tous les soirs. Enfin, j'adore la poésie, j'adore le théâtre, etc. Mais je pense que la force énorme du roman, c'est qu'on peut tout mettre dedans. Et que d'une certaine manière, on a tous les droits pour faire passer non seulement des idées, c'est important, les concepts, les idées, mais ce qui est merveilleux dans le roman, on peut faire passer aussi des sentiments, des sensations. Moi, j'adore écrire des romans et je crois que je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle. Là, j'aimerais bien mourir en écrivant la dernière ligne d'un roman. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement, j'ai le sentiment qu'on est près des gens. J'adore les lecteurs, les contacts avec les lecteurs. J'écris pour les lecteurs, moi je m'en cache pas. Il y a quelques livres dans ma vie que j'ai pu écrire pour moi et surtout pour mes enfants, comme L'Américain par exemple, ou La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Mais tous mes livres, je les écris pour les lecteurs. C'est merveilleux, vous savez, des contacts avec les lecteurs qui réécrivent le livre derrière, qui voient des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on avait écrites sans les voir vraiment, parce que c'était l'inconscient qui parlait. Enfin voilà. Donc je suis un passionné du roman, et c'est vrai que ce roman-là est un peu différent des choses que j'ai pu faire avant, parce que c'est plus une satire de notre époque.
Alors c'est une satire, oui c'est une satire, et en même temps on s'y retrouve tellement que parfois en lisant, alors heureusement il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'humour, on va venir évidemment au personnage et à l'histoire qui tient cette inquiétude, parce que c'est quand même l'expression d'une véritable inquiétude,
oui, tout à fait,
sur la liberté, parce qu'en fait vous êtes en train de nous décrire, puisque c'est de nous dont il s'agit, dans notre bêtise quand on fait des émeutes contre la canicule, mais vous êtes en train de nous décrire comme ayant finalement accepté de ne plus être libre, et il y a notamment Woody Allen où on comprend là que finalement, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Est-ce qu'on n'est pas en train d'accepter trop de choses? Est-ce qu'on n'est pas en train de se révolter contre de fausses révoltes? Enfin, vous nous mettez aussi beaucoup en cause, ou nos attitudes en tout cas.
Oui, mais faut reconnaître, par exemple, je vous dis ça parce que je trouve ça assez effrayant, mais j'ai eu le sentiment d'avoir été rattrapé par la réalité au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, ce roman, même si je parle du Covid, ça, j'ai rajouté ça en mars, mais ce roman, c'est le premier, on peut dire, c'est le premier roman sur le Covid et peut-être aussi sur le réchauffement climatique, mais ce roman, j'ai commencé l'année dernière. Je l'ai commencé à la même époque, j'ai dû commencer en mars-avril, vous voyez, et j'ai découvert peu à peu que des choses que je disais finalement était en train d'arriver, pas tout à fait la même chose, mais par exemple la journée de dépolanskisation, du nom de Roman Polanski. Ça ressemble beaucoup à cette espèce de farce qu'on a vue pendant les Césars, enfin qui n'était pas tout à fait à l'honneur de la France. Je ne dis pas que Roman Polanski est un petit saint et qu'il n'a pas de compte à rendre, c'est pas du tout ça que je dis, et puis je trouve que dans MeToo il y a eu évidemment un apport positif. Mais l'idée comme ça de faire cette espèce de guerre en permanence, de meute, de tribunal permanent, on vit sous le règne aussi du tribunal populaire permanent. Et ce que vous dites à propos de Woody Allen, c'est vrai que dans le bouquin, mais on n'est pas loin de ce qui pourrait arriver, bon, il est mort. Dans le livre, attention, moi je m'arrange pas non plus, puis il y a des gens qui meurent, je pense que j'en fais partie. Mais voilà, on l'enterre en France, c'est le seul cimetière qu'il a accepté. Et puis, comme il y a toujours des problèmes autour de sa tombe, finalement, on va le mettre dans une fosse commune. Mais attendez, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, l'opprobre est jeté sur des gens, on ne sait plus trop pourquoi. Et puis, il ne faut pas ramener ça juste au phénomène des réseaux sociaux. Je pense que c'est comment dire, la montée un peu partout dans le monde de ce qu'on appelait, pendant la Révolution française, c'est le grand mot d'Hippolyte Taine, l'historien de la Révolution française, la populace, vous voyez, avec des gens qui sont sans arrêt en train de jouer aux fléchettes sur des personnages qui nous sont apportés par Edoui Plenel ou par d'autres, etc. Et moi, c'est vrai, cette évolution me fait peur, avec en plus les interdits. L'impossibilité de rire, vous savez, bon, c'est un pont aux ânes, et moi je ne le traite pas comme ça, tout à fait, mais l'histoire du rire, quand même. Vous entendez toute la journée, les coluches des proches, on ne pourrait plus le faire comme ça. Mais en plus, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui me font rire. Moi, j'adore rire. Il y a toujours des gens qui me font rire. Et là, heureusement, il y a toujours Gaspard Proust. Il y en a beaucoup d'autres qui font rire. Allez voir leur spectacle, Stéphane Guillon. Moi, il y a plein de gens qui me font rire. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interdits. Il y a de plus en plus de choses dont on n'a pas le droit de rire. Et bien, le rire, par définition, il faut rire de tout, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, notamment de rire de notre époque, c'est une vieille tradition française, c'est une vieille tradition littéraire, enfin, je ne me compare pas à la Bruyère et à tous ces gens-là, mais je pense qu'on doit savoir se moquer de notre époque, se moquer de nous, parce que, comment dire, il y a trop de choses qui ne vont pas. Vous parlez d'inquiétude, vous avez raison. Je pense qu'on peut être inquiet, et pas seulement du réchauffement climatique. La connerie, si vous voulez. Moi, la connerie aussi me fait peur. Et cette espèce de connerie qui monte de tous les côtés, cette espèce de discours unique, hein, parce que c'est pas la pensée unique, même aujourd'hui, c'est carrément le discours unique. Tout ce qui s'éloigne du discours unique doit être éliminé. Et puis, voilà, enfin, moi, puis aussi, l'espèce d'opprobre qui est jeté sur certaines communautés, puis sur certains États, comme Israël, par exemple, pour pas le citer, où vous avez fake news à longueur de journée, mais à longueur de journée, avec des... Vous voyez, moi, par exemple, j'ai pris fait et cause pour Israël et pour la cause juive. Enfin, attention, je suis pas un partisan de Netanyahou, je suis pas politique. C'est juste une histoire de principe. Israël est, Israël est une terre juive, historiquement, depuis 3 millénaires. Bon. Eh ben, je vais vous dire, depuis maintenant, c'est toujours ce que j'ai pensé, mais à un moment donné, la moutarde m'est montée au nez face à la désinformation, etc., à la connerie, à toutes ces contre-vérités du mensonge que je pouvais entendre à longueur de journée. Eh ben, je vais vous dire, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, très souvent, c'est le juif Gisbert. Je suis pas juif, j'ai un peu de sang juif, comme tout le monde, mais je suis pas juif. Et c'est le juif, j'espère. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est tous ramenés à notre identité, on ne doit pas en sortir, et puis surtout, il faut qu'on suive bien et qu'on répète toutes les fake news dont on nous bassine à longueur de journée. Et bien, ce livre, alors, c'est pas un cri de colère, c'est un grand éclat de rire. On ne peut pas dire, c'est pas un cri de colère, c'est pas non plus, c'est pas des larmes, c'est pas un sanglot, mais comment dire, c'est un grand rire, je pense qu'il s'impose contre les dérives dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis régulièrement révolté en écoutant des fausses informations données sur toutes sortes de sujets, sur un ton extrêmement sentencieux par des gens qui n'ont même pas pris la peine d'étudier des choses. Par exemple, vous voyez, dans un livre précédent, j'avais dit de parler d'Israël, terre juive. Il y a des gens dans la rue, de temps en temps, qui m'arrêtent et qui me disent « Mais vous êtes sympa, vous êtes depuis longtemps, mais pourquoi vous avez écrit une insanité pareille ?» Je dis « Regardez les livres d'histoire. » « Ah non, monsieur, pas du tout, j'ai étudié. » Mais enfin, regardez, la Palestine, autrefois, ça voulait dire palestinien, ça voulait dire juif. La Palestine, ça voulait dire le pays des juifs. Regardez, dictionnaire Larousse, 1910, 1920, 1930, Palestine égale juif. Et vous voyez, et vous avez, en fait, le règne aujourd'hui du fait alternatif. Moi, ça me révolte. On est confronté sans arrêt au mensonge, sans arrêt sur toutes sortes de sujets.
On va terminer cet entretien qui est passionnant, mais de toute façon, on vous retrouve ce soir, hein, puisque si on participe à cette soirée Zoom organisée par Babette Wembaume, eh bien, nous aurons l'occasion de pouvoir vous entendre une conférence donc Zoom ce soir à 20h sur la vie d'après Covid. Vous pouvez appeler Babette au 07 83 68 36 25. C'est une femme qui écrit, elle s'appelle Diane. Elle va avoir une histoire d'amour avec ce Brad Sock, objectivement, qui est pas, il est pas incroyable, quoi. Il est pas très beau, il est un peu lâche, c'est un sale type, quoi, en fait. Et on se dit, mais bon, écoutez, les femmes sont les femmes. Et vous êtes très très bien dans l'écriture féminine, d'ailleurs. On a l'impression que c'est une femme qui écrit. Et pour tout vous avouer, quand j'ai commencé à lire votre roman, je me suis dit, tiens, il y a une faute de frappe, ils ont fait une coquille. Et puis en continuant, je me suis rendu compte que non, ça n'était pas une coquille, mais que c'était bien une dame qui était en train d'écrire. Et effectivement, on va vivre cette histoire d'amour qui ne dure que ce que durent les roses quand elles durent quand même un peu longtemps, puisque ça dépasse un tout petit peu le mois.
Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup me mettre dans la peau des femmes. J'ai écrit La cuisinière du Müller, c'était la narratrice, c'était une femme. Rose, et puis dans la racheuse de dents aussi, c'est une femme également, Lucille Bratzok. Enfin, j'aime bien l'idée de me mettre dans la peau d'une femme, et je me sens très bien dedans. Et c'est vrai que la narratrice, elle a une place très importante dans le livre. C'est-à-dire, bon, c'est clair que je suis Bratzok, je me moque un peu, à la façon d'autres écrivains comme Philippe Prott qui faisait ça aussi, mais peut-être en se moquant un peu moins de lui. Moi, je me fous vraiment de ma gueule. Et puis, je pense qu'elle ajoute quelque chose, c'est pas pour, pour, pour faire comme ça du féminisme de pacotille, mais on voit très bien que cette Diane, elle a une force incroyable. Et moi, c'est ça que j'aime souvent chez dans les caractères féminins, c'est que très souvent, bah, elles sont, comment dire, elles ont une forme de... Oui, elles ont plus de caractère souvent que les hommes. Bah, les hommes, ils ont la testostérone, ils ont une voix grave, ils peuvent gueuler fort comme moi. Les femmes, bah, si elles n'ont pas de testostérone, en tout cas, elles ont la plupart du temps beaucoup de caractère. Et cette Diane, évidemment, a beaucoup de caractère et je pense qu'elle sert beaucoup le livre en racontant cette histoire à sa façon, de la manière la plus objective possible.
Merci infiniment, François-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce dernier été. Alors, autant vous dire que je vous recommande ce livre qui est totalement jubilatoire. C'est un livre qui peut aussi questionner et qui nous questionne d'ailleurs sur qui nous sommes, sur comment nous réagissons ou comment nous ne réagissons pas, qui fait du rire un véritable combat, qui fait du rire une lutte, mais une lutte tellement agréable. Et comme disait l'autre, pour ceux que rire est le propre de l'homme. Merci François-Olivier, on se retrouve ce soir sur Zoom, La vie d'après. Un numéro de téléphone pour participer, pour avoir le lien de cette soirée à laquelle vous participez, 07 83 68 36 25. À ce soir.
Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info.